Le Festival des Solidarités, ou Festisol, est un rendez-vous annuel qui a lieu autour de la thématique de la solidarité. Chaque année en novembre, associations, collectivités, établissements scolaires, structures socioculturelles, acteurs de l'économie sociale et solidaire et groupes de citoyennes et citoyens organisent ensemble des animations autour de ce festival. Cette année, pour l'édition 2024, il a lieu du 15 novembre au 1er décembre. Fréquence Mistral vous présente le Festisol à Gap. Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission spéciale sur le Festival des Solidarités qui a lieu du 15 novembre au 1er décembre cette année en 2024, un peu partout en France et dont nous allons pouvoir profiter dans les Hautes-Alpes. Je ne suis bien sûr pas seule pour en parler puisqu'il y a avec moi Annette Ritt. Annette Ritt, bonjour. Vous êtes coprésidente de la boutique Échangeons le Monde à Gap.
L'association, oui,
tout à fait. Et à vos côtés également, Anne Quelin, bonjour.
Bonjour.
Et vous êtes bénévole à la CCFD Terres Solidaires et également responsable du groupe Amnesty International dans les Hautes-Alpes. Et donc, vous êtes à mes côtés aujourd'hui pour parler du Festival des Solidarités. Ensemble, on va présenter donc cette édition 2024, bien sûr. On fera un tour sur les actions et animations qui sont mises en place dans les Hautes-Alpes à cette occasion. Et puis, on s'attardera aussi sur les thématiques abordées dans les Hautes-Alpes, à savoir le sujet de l'eau et du cacao.
Tout à fait.
Avant de commencer, je pense qu'on peut parler un peu de ce qu'est le Festival des Solidarités. On peut peut-être d'ailleurs l'appeler le Festisol. Il me semble que c'est
tout à fait ça.
Une abréviation connue. Alors, je crois que le festival a été lancé il y a plus de 20 ans, en 1998.
Oui, je pense que depuis presque le début, là, bah, 98, oui, non, disons plutôt pour nous, vers 2006, on a commencé à faire des animations parce que la Fédération Artisans du Monde nous le proposait et qu'elle fait partie au niveau national, la fédération du collectif autour de Festisol.
Je pense d'ailleurs qu'on peut vous évoquer la Fédération Nationale des Artisans du Monde. On peut préciser que Échangeons le Monde fait partie de cette fédération.
Ah, tout à fait, nous sommes membres à part entière de la Fédération Artisans du Monde.
Et donc c'est un rendez-vous qui est bon partout en France, il est aussi à l'international. Chaque structure ou collectif de structures est libre de décliner le Festival des Solidarités, le Festisol, selon les thématiques. Dans les Hautes-Alpes, c'est la thématique de l'eau et du cacao qui ont été choisies. Est-ce qu'il y a des raisons à ça ?
Peut-être pour l'eau, dire que effectivement c'est un des problèmes cruciaux par rapport au changement climatique. Et le CCFD nous a proposé ça quand on se réunit, puisqu'il y a un collectif autour du Festisol des Hautes-Alpes. Et le CCFD avait une exposition sur l'eau à proposer. Et on a adhéré à ce projet. Et voilà, on a donc choisi le thème de l'eau. Et quant au cacao, il se trouve que la Fédération Artisans du Monde met l'accent l'année prochaine, sur le cacao, avec l'idée de... Le cacao et le chocolat, évidemment, qui en découle. Avec l'idée de proposer aux collectivités, que ce soit des cantines scolaires, que ce soit des groupements, de choisir du chocolat équitable, du cacao, pardon, équitable. Donc, c'était un thème très porteur pour nous. Et comme il se trouve que ce thème, pour nous, et c'est un des thèmes sur lesquels on va travailler toute l'année, je dis nous, Artisans du Monde, je sais qu'il y a déjà eu des émissions sur Échangeons le Monde. Échangeons le Monde s'appelle Échangeons le Monde parce qu'il regroupe deux associations de commerce équitable, Artisans du Monde et l'ASPAL, l'Association de Solidarité avec les Peuples d'Amérique Latine. Donc, on a un titre commun, Échangeons le Monde. Et donc, on a choisi aussi de mettre l'accent là-dessus pendant le Festisol.
Tout à fait, on pourra développer d'ailleurs les enjeux aussi bien de l'eau et du cacao tout à l'heure, un peu plus tard dans l'émission. Il y a aussi quelque chose sur lequel je voulais revenir, sur le Festisol en général. L'idée du Festisol, c'est de promouvoir la solidarité un petit peu partout, d'inciter les citoyennes et citoyens à agir. Est-ce que vous, depuis que vous êtes impliquée dans des actions solidaires, est-ce que vous observez une évolution de l'implication des personnes, et notamment peut-être des personnes jeunes ?
Ah ça, c'est difficile à mesurer. Alors peut-être que la commission éducation autour de notre salarié se rend plus compte quand elle va dans les classes des jeunes, si les jeunes s'impliquent plus. C'est toujours très difficile à mesurer l'implication et le résultat des campagnes que l'on fait. Mais bon, c'est vrai qu'on persévère quand même parce qu'on y croit, nous.
Anne, est-ce que vous observez quelque chose ?
Oui, moi je pourrais compléter quand même que dans les mouvements comme le CCF des Terres Solidaires et Amnesty International, qui sont des structures où il y a beaucoup de salariés et beaucoup de bénévoles qui travaillent ensemble, la part des salariés, c'est une tranche d'âge quand même jeune. Donc on a dans les personnes très engagées à la région ou au niveau des sections nationales, beaucoup de gens jeunes. Et à Amnesty spécifiquement, on a développé autant de groupes d'antennes jeunes. Donc il y en a à peu près 200 en France quand même. Et ça concerne des lycéens et après des plus grands après le bac. Mais aussi donc l'équivalent à peu près du nombre de groupes. Donc c'est pour dire que les antennes jeunes se développent, nous, dans ces mouvements-là. Au CCF des Terres Solidaires, on a beaucoup de joie à travailler avec, effectivement, des gens plus jeunes. C'est plus compliqué, je dirais, localement pour cette population-là, pour arriver à la voir dans nos mouvements, quoi. Mais on ne désespère pas.
Oui, je voulais aussi, c'est vrai, que Anne me fait penser à ça, qu'il y a aussi un développement chez les jeunes, et en particulier la fédération nous aide à monter des groupes qui s'appellent JAS, J-A-C-E, Jeunes Ambassadeurs du Commerce Équitable. Il y en a un qui est en route au lycée agricole, par exemple, et il y a deux ans ou trois ans, je ne sais plus, il y a eu une école, le label d'école de commerce équitable obtenu par le lycée d'Embrun. Donc, bon, alors après, l'équipe ayant changé, ça n'a pas forcément continué, mais il y a aussi, et puis les jeunes, eh ben, ils passent, et puis après, ils s'en vont, ils vont faire des études, c'est compliqué. Mais il y a aussi cette volonté, parce que l'équipe à la fédération est jeune, elle, les salariés, et nous aide à monter ce genre de groupe aussi.
Il y a bel et bien quand même une implication de la part des jeunes. Voilà. Qui se fait peut-être aussi à travers leur emploi maintenant.
Je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est ça le problème, en particulier des lycéens. Ils sont au lycée pour 3 ans et puis ils vont faire des études dans d'autres villes, etc. On ne suit pas toujours ce qu'ils font, ce qu'ils deviennent, comment ils s'impliquent, mais on peut espérer qu'effectivement, ayant été sensibilisés, disons, jeunes, ils ont envie de continuer.
Moi, j'ai un bel exemple. J'ai un jeune qu'on a vu il n'y a pas longtemps, qui était originaire de Digne, qui maintenant est en première année de Sciences Po à Aix, et qui a réussi à faire baptiser sa promo du nom d'une prisonnière d'opinion actuelle. Donc, je me dis, il y a une transmission. Alors, c'est peut-être des jeunes un peu exceptionnels, mais il y en a quand même.
Voilà.
Et ils entraînent les autres. C'est ça qui est important.
Oui, il y a une transmission. Et alors, pour continuer sur le Festival des Solidarités, une autre envie qui est autour de ce festival, c'est d'avoir un contenu qui soit pédagogique pour sensibiliser les citoyennes et citoyens. Est-ce que c'est important, ce côté pédagogique ? Comment est-ce que c'est abordé ?
Et à travers des films, à travers des expositions, à travers des sensibilisations dans les classes, puisque notre salarié va dans les classes pour en parler, etc. Donc forcément, ça, il y a un côté pédagogique qui est utilisé pour sensibiliser, ça c'est sûr.
Mais c'est important du coup d'expliquer, et j'imagine que peut-être il y a une démarche qui n'est pas trop descendante non plus dans les démarches.
Oui, je sais que notre salarié essaie beaucoup d'utiliser des jeux pédagogiques pour sensibiliser. C'est pas de leur asséner un discours, une conférence, ça sert à rien. C'est vraiment à travers des jeux qui permettent de prendre conscience de certaines choses.
Donc si on essaye de résumer ce que veut faire le Festisol, donc son but, ce serait de donner de la visibilité à la solidarité, de la mettre en valeur, d'encourager les personnes à s'impliquer dedans. Et puis aussi, une autre idée, c'était de mettre en valeur le lien entre le local et l'international dans les enjeux de solidarité, et puis entre les différents acteurs aussi localement.
Tout à fait. Le commerce équitable, au départ, c'était nord-sud. Mais on se rend compte que les problèmes, par exemple, des paysans sont les mêmes plus accentuées au sud, mais sont les mêmes dans le nord. Et donc, de plus en plus, il y a un commerce nord-nord, équitable nord-nord, qui se fait, ou un commerce solidaire, parce qu'ils n'ont pas forcément le label équitable, mais qui permet de sensibiliser aussi bien ici que là-bas.
Et est-ce que vous pensez que la solidarité, donc par exemple à travers le commerce équitable, est-ce que vous pensez que c'est une solution dans les enjeux qui existent aujourd'hui, aussi bien au niveau de l'environnement, au niveau du commerce, de l'alimentation, etc.
Oui. Et oui, tout à fait. D'ailleurs, on nous reproche quelquefois, à nous, associations de commerce équitable, oui, mais vous faites venir des produits de l'autre bout du monde, c'est pas écologique. Et en fait, quelquefois, les produits ici, sont, avec tous les pesticides, etc., sont beaucoup moins équitables, entre guillemets, et détruisent beaucoup plus l'environnement que les produits qui viennent du Sud, parce que la majorité des produits, quand même, qu'on utilise dans le commerce équitable, sont bio. Donc vraiment, bah, je parle d'alimentaire là, mais voilà. Et quant à l'artisanat, puisqu'on tient beaucoup aussi à l'artisanat équitable, qui vient des pays du Sud essentiellement, ça c'est vrai, eh bien c'est une question de solidarité internationale. Bien sûr qu'on essaie de pousser à ce qu'ils puissent avoir un marché local et écouler au maximum, mais quand on a voyagé, on en dit bien, on ne peut pas écouler tous les produits et vivre simplement du commerce local. Donc, on a besoin de la solidarité internationale et du commerce nord-sud. Voilà.
Ça, c'est intéressant. Anne, est-ce que vous voulez réagir?
Oui, je voulais simplement dire en complément que je pense qu'aussi localement, il y a un savoir-faire par rapport à l'artisanat qui est très ancien. Hein. Donc, ça leur permet aussi d'avoir des ouvertures de marché aussi pour distribuer leurs produits puisque tout n'est pas consommé sur place. Il y a en plus une plus-value, je pense, sur la vente de ces produits. Donc, sincèrement, je pense que c'est pour eux une source de revenus. En plus, on se rend compte que par rapport au projet du CCF des Terres Solidaires, il y a beaucoup de projets où ils ont besoin de se diversifier parce que les ressources essentielles comme la pêche ou des cultures traditionnelles, ça ne fonctionne plus pour eux. Donc, ils ont besoin d'aller vers des domaines différents pour continuer à pouvoir aussi s'alimenter et payer des infrastructures, payer l'éducation des enfants. Donc, je pense que c'est pas qu'un rapport de consommation, en fin de compte. C'est une consommation, moi je dis responsable, mais c'est une vraie consommation responsable, même dans le cadre de l'artisanat.
D'autant plus que on pille les pays du Sud. On a vu dans le cadre du festival alimentaire qui est aussi en ce moment, on a vu un film Jusqu'au bout du monde par exemple sur les poissons, sur le poisson et comme on détruit la pêche locale, les gros pays très consommateurs de poissons qui pillent les ressources locales et qui même pêchent les petits poissons qui sont ceux qui consomment localement. Et qu'est-ce qu'ils en font? Ils en font de la farine de poisson pour nourrir les poissons dans l'aquaculture. Donc, on a une vraie responsabilité de pilleur aussi. Donc, quelque part, le commerce équitable essaie, entre guillemets, évidemment, de pallier ce problème.
D'où l'importance, on le disait, justement, du lien entre le local et l'international.
Tout à fait, tout à fait.
Alors, pour revenir à ce qui se passe dans les Hautes-Alpes, on le disait tout à l'heure, le Festival des Solidarités est organisé dans les Hautes-Alpes depuis 2006.
Je ne sais pas parce que je pense que depuis le début on a fait petitement, mais que depuis 2006 où nous à Échangeons le Monde on a un salarié, c'est plus facile d'organiser, voilà. Mais je sais pas, ça fait 10 ans. En tout cas, c'est sûr, ça fait 10 ans que c'est très important, quoi.
Que c'est vraiment ancré dans les Alpes.
Voilà, oui. Oui, on ne se pose même pas la question, on organise le Festisol, quoi. Avec tout le collectif, puisqu'il y a différentes associations dans le collectif, d'autres associations, mais il y a aussi le Secours catholique, la Société alpine de protection de la nature. Donc c'est un collectif qui regroupe 6-7 associations qui se réunit chaque année. Voilà.
Est-ce que depuis que ce rendez-vous existe, est-ce que vous observez des évolutions aussi, notamment par exemple les liens entre les acteurs du territoire? Est-ce qu'il y a des choses qui changent au fur et à mesure des rendez-vous, des festivals
Oui, dans la mesure où on apprend à mieux connaître les autres associations. Moi, c'était le cas pour ce sur quoi travaille la SAPN. Ils sont beaucoup plus ancrés sur le territoire et donc combats sont beaucoup plus sur le territoire et enfin personnellement on arrive à avoir des regards croisés, c'est ça que je trouve très intéressant, ouais, avec Artisans du Monde également. C'est-à-dire quand Mélanie m'a demandé tiens on fera sur le cacao, je me suis dit ben nous est-ce qu'on a quelque chose sur le cacao, et puis j'ai trouvé par la commission enfants une action qui avait été effectivement menée sur les plantations de cacao. Donc on se rend compte que en fait l'ensemble des facteurs, on est chacun peut-être sur un facteur dans la défense des droits, dans la défense des populations locales, mais on se retrouve sur l'analyse.
On se nourrit les uns des autres.
Voilà, complètement. Voilà. On a une analyse commune quand même qui se contradit pas. Et donc c'est ça qui est intéressant dans la solidarité, c'est d'arriver à avoir plusieurs regards et proposer du coup au public plusieurs regards. C'est-à-dire que par rapport aux populations scolaires, il y a aussi plus de domaines accessibles, peut-être pour le grand public, sur la problématique du cacao, parce que c'est quelque chose qui est signifiant quand ils achètent une tablette.
Poser une question
sur les labels, je trouve ça très intéressant. Après, quand on va plus loin, qu'on parle plus de la situation internationale, c'est une ouverture d'esprit.
Voilà.
Peut-être qu'on n'est pas forcément acteur, mais au sein des associations, on sait qu'on l'est parce qu'on fait des plaidoyers au niveau international. Au niveau local, c'est plus compliqué.
Au moment de la journée de la science à Gap, échangement d'action sur le cacao, et les classes ont défilé. Et alors, ça avait un côté très sympathique parce qu'il y avait un carré de chocolat à la fin. Mais voilà, ça les sensibilise aussi par rapport à tout ça, parce que c'est pas quand on achète une tablette au supermarché où on ne sait pas toujours ce qu'il y a derrière, quoi. On essaie, les parents, selon leurs moyens, essaient le moins cher, mais c'est le moins cher veut dire exploitation quelque part. Donc, on change de thématique chaque année. Bon, l'année dernière, c'était le vêtement, l'exploitation en particulier des pays du sud-est asiatique sur la fabrication. On se rappelle l'effondrement du Rana Plaza il y a 10 ans, parce que des ouvrières étaient enfermées dans l'usine et n'ont pas pu sortir à temps et que ça s'est effondré. Et ça, c'est on achète des vêtements et on est co-responsable, puisque des sociétés qui font des vêtements en France, enfin qui commercialisent des vêtements, les font faire à bas prix là-bas. Et cette année, voilà, c'est le chocolat, c'est le cacao, ça permet de sensibiliser aussi.
Effectivement, aux différents enjeux et de se rendre compte de la réalité qu'il y a derrière notre consommation, en fait.
Voilà.
Alors, Annette Ritt et Anne Quelin, nous arrivons à la moitié de cette émission. Je vous propose, avant de passer à la suite, que nous fassions une petite pause musicale et d'écouter Au secours de Dominique Dimet.
J'ai fait un cauchemar. Il n'y avait plus d'eau. Dans les lacs, les sources, les rivières, les mares, les puits, les robinets. Il n'y avait plus d'eau pour manger et pour boire. Je ne voulais pas y croire. J'étais assise par terre, au milieu d'un désert, et les gens tout autour qui criaient au secours, et les gens tout autour qui criaient au secours. Il faut de l'eau pour la tige de la fleur, les plumes de l'oiseau. Au secours, il faut de l'eau pour nager comme un poisson, voguer comme un bateau. Au secours, il nous faut de l'eau pour rester vivants, de l'eau vive qui court comme les enfants. Je crie au secours. Je me suis réveillée, me suis mise à crier. J'avais tellement pleuré que sur mes joues mouillées coulaient des gouttes d'eau, petites larmes salées pour arroser mon cœur. Rano à quoi hauteur. Au secours, il faut de l'eau pour la tige de la fleur, les plumes de l'oiseau. Au secours, il faut de l'eau pour nager comme un poisson, voguer comme un bateau. Au secours, il nous faut de l'eau pour rester femmes, les enfants. Je crie au secours. Il faut de l'eau pour la tige de la fleur, les plumes de l'oiseau. Au secours, il faut de l'eau pour nager comme un poisson, voguer comme un bateau. Au secours, il nous faut de l'eau pour rester vivant, de l'eau vive qui court comme les enfants. Je crie au secours. Il faut de l'eau pour la tige de la fleur, les plumes de l'oiseau. Au secours, il faut de l'eau pour nager comme un poisson, voguer comme un bateau. Au secours, il nous faut de l'eau pour rester vivant, de l'eau vive qui court.
Vous êtes toujours sur Fréquence Mistral, on vient d'écouter ensemble Au secours de Dominique Dimet. Nous sommes de retour dans cette émission spéciale sur le Festival des Solidarités ou Festisol. À mes côtés toujours Annette Ritt, coprésidente d'Échangeons le Monde, et également Anne Quelin, bénévole à CCFD Terre Solidaire et responsable du groupe Amnesty International dans les Hautes-Alpes. Bon, alors après ce regard un peu sur ce qu'est le Festival des Solidarités, justement on commençait à l'aborder, est-ce qu'on peut se plonger un peu plus sur les animations qui vont être proposées dans les Hautes-Alpes et en fait essentiellement à Gap cette année?
Alors je te parlais déjà peut-être de l'expo photo, du prix photo du CCFD Terre Solidaire. Donc c'est la première année que cette exposition est proposée dans la région PACA. Donc on travaille avec la région pour la diffusion de cette exposition photo qui tourne en fait. Hein, donc elle est dans les Hautes-Alpes jusqu'au mois de janvier à peu près. Mais elle sera plus spécifiquement sur Gap, donc à la mairie, c'est dans les locaux de la mairie, en face de la mairie, à l'hôtel de ville, pardon. Et donc l'exposition sera ouverte tous les jours de 16h30 à 18h30. Et les mercredis et samedis de 9h30 à 12h30 et de 16h30 à 18h30. Il y aura la présence des bénévoles du CCFD Terre Solidaire pour expliquer
l'exposition. Et d'Échangeons le Monde.
Voilà, pour présenter donc l'exposition qui est sur... Donc c'est un prix international de la photographie. L'historique, c'est que Sebastião Salgado, qui est un très grand photographe, a pu acheter son premier appareil photo, son Leica, grâce au premier concours qu'avait fait le CCFD Terre Solidaire en 1973.
Donc ça remonte.
Donc c'est un parrain très complice du CCFD qui a accepté de parrainer donc ce premier prix de la solidarité. Et il se trouve qu'on a deux femmes qui ont été sélectionnées et qui ont donc photographié l'une, les oubliés de la rivière Kosi. Alors les oubliés de la rivière Kosi, c'est le nord-est de l'Inde, l'état du Bihar. Donc elle a été plusieurs mois dans cette région pour photographier cette population très spécifique qui vit sur les bords d'une rivière qui est très importante, hein. On dit rivière mais c'est un fleuve, et donc qui vivent entre des systèmes de digues qui sont des populations plutôt de caste inférieure en Inde et qui ont été oubliées, c'est-à-dire qu'ils vivent dans des secteurs très dangereux parce que très exposés au débordement du fleuve au moment des moussons. Il y a beaucoup de facteurs qui s'enchaînent, donc inondation des cultures, la faim, l'absence de scolarité des enfants, les femmes qui sont analphabètes et les enfants du coup aussi. Enfin, il y a un ensemble de problèmes sociaux qui sont cumulés. Donc ça, c'est les oubliés de la rivière Kosi. Et la deuxième partie de l'expo, c'est les larmes du fleuve Tigre. Donc là, c'est une personne originaire de Grande-Bretagne, mais qui vit en Irak, et qui a photographié le Tigre, donc qui est un grand fleuve depuis la Turquie jusqu'en Irak, qui a fait un énorme périple pédestre, donc le long de ce fleuve, et qui a photographié donc les atteintes à l'environnement par rapport au fleuve et ce qu'elle a pu constater au niveau des répercussions sur les populations locales. Et donc c'est deux parties dans l'exposition qui sont présentées. Il y aura donc les photos commentées. Les personnes pourront aller plus loin parce qu'il y aura des tablettes qui permettront de voir l'ensemble de la production de ces deux photographes. Et puis il y aura des quiz, un quiz qui permettra un peu d'animer l'exposition. Et la possibilité avec les smartphones de lire les QR codes qui renverront à quelque chose d'un petit peu plus précis sur les conditions dans lesquelles les photos ont été prises. C'est important de comprendre parce qu'on voit la photo, on se dit c'est beau, c'est... pour nous ça ne parle pas forcément. Par contre, ce phénomène de QR code qui permet de renvoyer sur le commentaire, du coup ça rend l'exposition beaucoup plus vivante. Donc je pense que c'est une exposition très intéressante et très grand public. Hein, donc, et une prise de conscience du coup des phénomènes de dégradation climatique, l'impact sur les populations. Alors là c'est à grande échelle pour des populations importantes, mais on peut, quand on parle des regards croisés, ça nous parle aussi. Hein. On a eu quand même des événements dans les Hautes-Alpes qui nous ont fait voir combien les populations étaient parfois très exposées.
Et puis, vous le disiez, en plus de ça, dans cette exposition, il y aura une présence de bénévoles peut-être pour répondre aux questions des personnes.
Oui, tout à fait. Il y aura une possibilité animée, en fait, d'avoir des personnes qui parleront à la fois des contextes hein, et puis de ce que peut apporter aussi ce type d'exposition, en fait, pour du grand public.
En tout cas, on le rappelle, donc, cette exposition, elle se passera donc, à la salle de l'Hôtel de Ville, rue du Colonel Roux. Et donc, elle commence le 21 novembre et elle est disponible jusqu'au 4 décembre.
L'inauguration sera le 22 novembre.
Le 22 novembre. Entrée libre, gratuit, pas d'inscription.
Non.
Merveilleux. Donc on peut y aller comme on veut. C'est pas la seule animation qui concerne l'eau. Je crois avoir vu aussi passer une ciné-conférence à la Cinémathèque de Montaigne.
Voilà. Alors, c'est en fait un film du Festival alimentaire. Donc là, ça rejoint, c'est au même date, hein, ça rejoint le problème de l'eau et le Festisol qui s'appelle L'or bleu, l'or vert, les larmes d'une vallée. Donc c'est dans la vallée de Petorca au Chili et l'avocat domine un paysage devenu aride, remplaçant les cultures traditionnelles par une monoculture intensive. Et on voit un parc d'avocats verts, luxuriants, et à côté l'aridité. Et les camions-citernes qui viennent pour les paysans parce qu'ils n'ont plus d'eau. C'est assez effrayant. Alors, il faut savoir qu'au Chili, l'eau est privatisée. Et ce documentaire donne la parole aux paysans, les premières victimes de ces politiques ultralibérales, qui voient leur mode de vie complètement bouleversé. C'est un film important. Alors, on va passer ce film et il y aura une conférence débat qui suivra de Juliette Duquesne, qui est une conférencière, journaliste indépendante, co-auteur avec Pierre Rabhi de L'eau que nous sommes, un élément vital en péril. Donc elle viendra, elle parlera pas forcément du film, hein, mais le film parlera en lui-même, ça c'est clair, et elle fera sa conférence sur le problème de l'eau.
Cette conférence, cette ciné-conférence, du coup, voilà. Donc le visionnage du film et la conférence ensuite de Juliette Duquesne, ce sera le 3 décembre à 18h30.
À la Cinémathèque de Montaigne. La Cinémathèque de Montaigne. Forest d'entrée.
Est-ce qu'il y a aussi des conditions d'accès particulières?
Alors, ce sera au chapeau. C'est gratuit, on entre, mais on a la location de la Cinémathèque à un coût. Et donc, il y aura un chapeau à l'entrée, si les gens veulent bien mettre une pièce ou un billet pour nous aider à payer ça.
Est-ce qu'il y a des inscriptions nécessaires?
Non. Non, non, il y a un nombre limité de places qui est, voilà. On donnera un ticket pour compter les gens et qu'il n'y ait pas de surplus parce que la Cinémathèque ne l'acceptera pas pour les questions de sécurité. Donc, si on a 200 places, on sera, 200 personnes, on sera très contents.
Donc, premier arrivé, premier assis finalement.
Voilà, voilà.
Il y aura une autorisation pour les associations qui participent à cette soirée, de tenir un stand. Donc, elles seront présentes. Donc, ça, c'est important parce qu'elles vont pouvoir parler de leurs problématiques, on va dire, plus au niveau des associations. Nous, on développera le cas d'un prisonnier d'opinion qui a défendu comme défenseur, on va dire, des conditions environnementales au Guatemala. C'est un peu un exemple.
Parle d'amnesty, là.
Donc, on développera cet exemple-là, parce qu'il est assez emblématique, et c'est une personne qui a été libérée, en plus. Mais son travail, ce qu'il a fait sur plusieurs années, est tout à fait emblématique, justement, d'une captation d'un fleuve, également, pour faire un barrage hydroélectrique d'une société extractiviste. Donc c'est très intéressant parce que ça recouvre l'ensemble des problématiques et aussi d'une confiscation des terres de peuples autochtones, donc, puisque ce monsieur est originaire des peuples quechua. Donc voilà, nous c'est ce qu'on fera au niveau d'Amnesty. Je pense que le CCF des Terres Solidaires aussi présentera.
Oui, alors il y aura quelques panneaux de l'exposition. de qui sera l'hôtel de ville visible à partir du lendemain. Il y aura quelques panneaux de l'exposition dans le hall. Il n'y aura pas toute l'exposition, hein, mais et qui incitera à aller après à l'hôtel de ville.
Donc, ils seront présents donc, à cette soirée à la Cinémathèque de Montaigne le 3 décembre pour... Voilà. Développer justement ce sujet de l'eau. Et donc, ce n'est pas le seul thème abordé dans ce festival. Il y a aussi le cacao, on l'évoquait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir autour du cacao ?
Alors, autour du cacao, ça se passera dans le cadre du marché de Noël, dont je peux parler d'abord. Le marché de Noël qui rentre aussi dans le festival. Alors, le fait marché de Noël, c'est une institution installée depuis 40 ans, 30 ans, qui était portée essentiellement par l'ASPAL, au départ, Association de solidarité avec les peuples d'Amérique latine, qui est une autre association de commerce équitable des Hautes-Alpes, et qui est partenaire à Échangeons le Monde, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et de plus en plus, maintenant, c'est vraiment... Échangeons le Monde regroupe... Enfin, le marché Noël regroupe les deux associations, plus... des associations de solidarité invitées. J'en parlerai après, mais par rapport au marché de Noël, donc, on va faire, qui aura lieu cette année, pas au pénitent, comme d'habitude, parce qu'il y a les travaux du carré de l'imprimerie et que la rue est coupée, c'est un peu sinistré, le quartier, là. Et donc, ça se passera à l'espace paroissial du pape François, qui est en haut de la rue Carnot, à côté de l'église des Cordeliers. Et donc, il y aura un coin de films où les gens pourront passer des petits films courts. On ne va pas passer un long film, mais évidemment, des petits films courts. Le temps de s'asseoir 5 minutes, regarder quelque chose. Et il y aura un coin jeu qui sera animé par Échangeons le Monde et la SAPN autour du cacao.
Voilà. Donc, il y aura des animations autour du cacao dans ce marché de Noël.
Alors, le rendez-vous, donc, c'est à partir du 29 novembre, vendredi 29 novembre, le samedi 30 et le dimanche 1er décembre. Il y aura la présence d'associations de solidarité, comme je dis. Alors, c'est qui ? C'est Amnesty, c'est la CIMAD, c'est l'AFPS, l'Association de France-Palestine Solidarité, qui commercialise pour aider les populations là-bas des broderies de Ramallah. L'ACAD, l'Association des chrétiens contre l'abolition de la peine de mort et de la torture. Il y aura l'Attitude Zéro, qui est une association qui travaille avec des enfants en Colombie. Et il y aura cette année pour la première fois Palabre, qui est une association autour de la Guinée. Et toutes ces associations commercialisent des choses, bon, sensibilisent, mais commercialisent aussi de l'artisanat, un peu d'artisanat, quelquefois qu'elles font même pour aider les associations à vivre et aider et pouvoir aider les populations soutenir des populations ailleurs.
Et donc ce sera l'occasion pour nos auditeurs et auditrices d'aller chercher des cadeaux de Noël finalement qui soient solidaires.
Voilà. Oui, donc ce sera ouvert de comme j'ai dit les dates et de 10h à 19h tous les ces 3 jours au centre diocésain Pape François qui est en haut de la rue Carnot. Quand on a l'église des Cordeliers devant soi, on tourne à droite dans le jardin. Et là, il y aura l'accès à
au marché
salles.
De Noël et donc voilà. À nos cadeaux solidaires.
Et à des cadeaux solidaires et équitables.
Le Festival des Solidarités, présenté avec Fréquence Mistral.
Et ben, je vous propose qu'on termine cette conversation sur peut-être qu'on peut développer un peu plus justement les sujets de l'eau et du cacao. On les a évoqués depuis le début de notre échange. J'aimerais bien commencer par l'eau. On échangeait tout à l'heure aussi avant de commencer cette émission sur les constats qui existent que les gens connaissent peut-être déjà sur la crise mondiale de l'eau qui est connue. Est-ce qu'il y a des choses localement qui sont constatées aussi peut-être au niveau des glaciers, de la neige.
La SAPN saurait mieux en parler que nous, mais c'est évident que la fonte des glaciers, qui sont une source de l'eau, est préoccupante. J'entendais hier que d'ici 10 ans, il n'y a plus de glaciers dans les Hautes-Alpes. Donc, on les voit remonter, c'est assez effrayant. On n'a pas de problème d'eau encore que, il y a l'année dernière, régulièrement, il y a une grande bataille de l'eau autour de Gap et du Champsaur, ça, je ne vais pas rentrer dans ce polémique-là, mais c'est sûr qu'il y a des moments où il y a des restrictions d'eau pour ne pas arroser les jardins, etc.
À cause justement des problématiques.
À cause de la sécheresse, oui.
Anne. On
va peut-être ajouter aussi l'importance des précipitations qui ont entraîné quand même dans le nord du département des... Gros dégâts, donc il y a cette problématique-là aussi à prendre en compte, c'est-à-dire que on aura des précipitations qui seront
anarchiques,
ouais. Très importantes sur des temps très courts. Donc, je pense que sur nos territoires avec du relief, ça pose quand même des problèmes.
Ah oui, ça entraîne des glissements de terrain, des catastrophes naturelles. Quoi.
Et on en a eu sur des, on va dire, sur des durées assez serrées. Là. Donc on peut supposer que ça va se reproduire. Donc c'est quand même une prise de conscience aussi localement. Ça, c'est pas sur des pays à l'international, ça prend des dimensions énormes. Mais chez nous, voilà, on doit y être sensible aussi, il me semble.
Et oui, ça nous touche aussi. Et alors, la solidarité, quel peut être le rôle de la solidarité, justement, dans ces enjeux liés à l'eau? Bon, on vient de l'évoquer sur localement les enjeux qu'il y a. En me renseignant, j'ai lu que plus de la moitié de la production alimentaire mondiale était menacée dans les 25 prochaines années. Donc, ça fait quand même un sacré chiffre. Et pareil, la moitié de la population mondiale vit déjà des pénuries d'eau. Qu'est-ce que la solidarité peut apporter dans ces enjeux-là?
La sensibilisation au gaspillage, bon, c'est vrai que, c'est un peu politique ce que je vais dire, mais que l'élection de Trump est très inquiétante, puisqu'il ne croit absolument pas au changement climatique. Là, en ce moment, il y a la COP29 qui sensibilise bien. Il faut vraiment sensibiliser les populations au non-gaspillage et à ce qui nous attend, quoi. Et le réchauffement climatique, ça ne concerne petitement les populations, mais ça nous concerne quand même, quoi. Donc,
parce que on le disait tout à l'heure, on peut avoir un pouvoir aussi nous localement sur ce qui se passe à l'international, peut-être.
Tout à fait. Ouais. On est une seule planète, et donc on a à défendre cette planète, quoi.
Moi, je pense que on a un vrai travail un vrai pouvoir dans le plaidoyer, parce que je pense que les grandes organisations, que ce soit Artisans du Monde ou des autres organisations, ont ont des représentations sur des organismes internationaux comme l'ONU ou l'Europe, où il y a un vrai travail de fond qui est fait sur le changement aussi au niveau des gouvernements de leurs lois et la protection des populations, la prise de conscience des migrations que ça va entraîner, puisque on sait très bien que les populations sont déplacées à partir du moment où elles ne peuvent plus vivre localement, quand elles n'ont plus rien à manger. Et il y a une responsabilité du côté des gouvernements par rapport à ça. C'est-à-dire, et nous, citoyens, on peut très bien avoir une action locale qui est par rapport à nos députés, par rapport à nos sénateurs, voire par rapport à nos gouvernements. Je pense qu'on n'est pas du tout impuissant. Et il faut savoir que les populations locales sont très sensibles au soutien qu'on peut leur apporter, même si on ne fait pas à leur place. Ça, c'est au CCFD, on dit on fait avec, mais on fait surtout pas à leur place, puisque c'est eux qui connaissent leur territoire, leur culture, leur tradition, la façon dont ils fonctionnent, et qui n'est pas forcément la nôtre. Par contre, on peut leur apporter un soutien important sur le développement de leurs initiatives. Le CCFT, Terre Solidaire, a une fonction de partenariat extrêmement importante sur des populations locales, donc qui travaillent sur ces problématiques de l'eau, par exemple. Et ça va jusqu'à l'émancipation des femmes. En Inde, c'est un gros travail qui est fait. L'éducation des enfants, parce qu'à partir du moment où on libère les personnes financièrement, c'est-à-dire qu'ils arrivent à avoir suffisamment de revenus, ils vont pouvoir envoyer leurs enfants à l'école. Les plantations de cacao, c'est une exploitation des enfants, mais pourquoi? C'est parce que c'est des exploitations familiales, donc petites, et les personnes qui tiennent ces exploitations ont besoin des enfants pour ramasser les fruits, oui, pour les traiter derrière. C'est bien les conditions aussi sociales de ces personnes-là. Les gens seraient ravis d'envoyer leurs enfants à l'école, s'ils le pouvaient. Oui. Mais en fait, la plupart du temps, les moyens, c'est qu'ils ne le peuvent pas. Donc, si on peut aider à leur croissance économique, on sait qu'on est derrière tout un système. Et donc, si les femmes ont plus de place aussi dans la société dans laquelle elles sont déjà très présentes, mais parfois on les reconnaît pas dans leur fonction, ça va leur permettre, elles aussi, d'avoir accès à l'éducation. Parce que le plus souvent, quand elles sont très précaires, elles ne savent pas lire, elles ne savent pas imaginer un système économique non plus. Si on leur donne les possibilités d'aller vers un système économique viable, elles se mettent entre elles, et c'est impressionnant. Enfin, moi, j'avais un exemple sur le Sénégal où peut-être une quinzaine de femmes, elles sont passées à plus de 120, quoi. Donc, en coopérative, mais parce qu'on leur a donné un modèle de développement économique et on les a aidés via donc le partenaire local à développer ce système en croyant aussi en leurs capacités. Hein. Donc je pense qu'il y a vraiment, enfin c'est un système de lien et qui est très efficace. Il faut quand même le dire. Alors on le voit pas parce que c'est pas dans les médias, mais c'est impressionnant quand on les interroge en direct. Ouais, c'est...
Il faut le souligner.
Sans parler, je voulais ajouter aussi par rapport aux plantations de cacao, la santé. Parce que les pesticides que ces gosses reçoivent, les gosses et les adultes bien sûr, reçoivent, c'est hyper important et ça détruit leur santé. Et je pense qu'on a aussi là un rôle, à Artisans du Monde, c'est ce qu'on défend aussi, c'est des plantations bio. On déforeste à fond pour planter des cacaoyers et avec des pesticides, des engrais, etc., qui sont nocifs à la santé.
Donc en fait, dans les enjeux du cacao, vous l'avez développé, il y a non seulement les enjeux sociaux par l'exploitation d'enfants, et aussi des enjeux environnementaux de pesticides, de déforestation.
Cette campagne cacao, entre guillemets, ou chocolat, que va mener Artisans du Monde avec d'autres, elle s'étend, bon, on va avoir un petit focus là, mais elle s'étend encore toute l'année prochaine, donc il y aura d'autres manifestations autour de ça.
Eh bien, écoutez, je crois qu'on a fait un beau tour sur ce qu'on avait à dire. Je pense qu'on peut retenir que la solidarité a un beau rôle à jouer dans les enjeux aussi bien locaux qu'internationaux. Et c'est quelque chose qui sera mis en valeur lors de ce festival, Annette.
On vous attend à l'exposition, évidemment, au film et au marché de Noël.
Et notre émission touche à sa fin. Merci beaucoup Annette Ritt, coprésidente d'Échangeons le Monde, et Anne Quelin, bénévole à CCF des Terres Solidaires et responsable du groupe Amnesty International dans les Hautes-Alpes. Merci à toutes les deux d'avoir été présentes dans cette émission spéciale sur le Festival des Solidarités. On l'a dit, on peut retrouver toutes les informations sur le site internet Festisol et sur les réseaux sociaux. Je vous propose qu'on conclue ensemble, chères auditrices et chers auditeurs, cette émission avec à nouveau un morceau de musique. Et cette fois-ci, on écoute le lac Saint-Sébastien d'Anne Sylvestre.
Tiens, se dit le lac Saint-Sébastien, je ne comprends pas ces humains. Ils sont si pleins de turbulences, je crois qu'ils ont peur du silence. Ils s'imaginent réfléchir, moi je sais ce que ça veut dire. Tiens, se dit le lac Saint-Sébastien, oh, je leur expliquerai bien qu'il faut qu'il n'y ait pas un souffle, ou bien l'image se boursouffle, on ne distingue plus le fond, le ciel est comme un vieux chiffon. Mais près de moi vit une humaine, je la vois quand elle se promène. Et si parfois elle parle haut, elle connaît la langue de l'eau. Tiens, se dit le lac Saint-Sébastien, elle dit que nous sommes cousins, que les humains sont très liquides, mais ils ne sont pas translucides. Où sont leurs truites, leurs brochets? Il faut croire qu'ils les cachaient. Tiens, se dit le lac Saint-Sébastien, sans doute ils n'y comprennent rien. L'eau qu'ils possèdent, ils la salissent, ils y jettent leurs immondices. Et quand elle est bien polluée, disent qu'il faut la purifier. Mais près de moi vit une humaine, je la vois quand elle se promène. Et si parfois elle parle haut, elle connaît la langue. Se dit le lac Saint-Sébastien, ils sont étranges ces humains. Quand ils détournent des rivières, ils sont parfois très en colère. Si elles vont regagner leur lit après avoir tout englouti. Tiens, se dit le lac Saint-Sébastien, je crois qu'ils ne font pas le lien entre toutes les eaux du monde. Moi je sais qu'elles correspondent. Et quand la plus petite flaque, il y a l'espérance d'un lac. Mais près de moi vit une humaine, je la vois quand elle se promène. Et si parfois elle parle haut, elle connaît la langue de l'eau. Tiens, citoyens, se dit le lac Saint-Sébastien. Ils se battent comme des chiens, ils sont chiens quand ça les arrange, et puis se prennent pour des anges, comme si d'être ce qu'ils sont leur donnait un mauvais frisson. Tiens, se dit le lac Saint-Sébastien, ils s'improvisent magiciens, ils déracinent et ils bétonnent, ils font le vide et ils s'étonnent que les saisons aillent de travers et que s'étendent le désert. Mais près de moi vit une humaine, je la vois quand elle se promène, et si parfois elle parle haut, elle connaît la langue. Se dit le lac Saint-Sébastien, je refroidis, l'hiver s'en vient, bientôt se formera ma glace, dessous j'aurai toute la place, pour moi le gel est bienvenu, je n'aime pas les arbres nus. Tiens, se dit le lac Saint-Sébastien, je vais rêver à ces humains, ils seront encore là j'espère, quand mes eaux redeviendront claires, et que se poseront les huards, pourvu qu'il n'ait pas de retard. Et que près de moi, cette humaine ait traversé l'hiver sans peine, qu'elle vienne avec les oiseaux me parler la langue de l'eau.
C'était une émission spéciale Fréquence Mistral sur le Festival des Solidarités ou Festisol.